Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, ce soir dans le débat du Club des Idées, on parle donc de ce mouvement inédit, nécessaire, je le disais tout à l'heure, autour de la libération de la parole concernant les victimes d'inceste. Après l'affaire Olivier Duhamel, on assiste, c'est vrai, depuis quelques jours à un déferlement de témoignages sur les réseaux sociaux sous le hashtag #MeTooInceste, permettant à des milliers de victimes de témoigner. On est justement en ligne avec Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Julien.
Bonsoir madame. Quel âge avez-vous ?
Je vais avoir 54 ans à la fin du mois.
Et vous faites partie de ces nombreux Français, Françaises, qui ont témoigné sur les réseaux sociaux depuis quelques jours ?
Oui, oui, j'ai effectivement eu cet élan hier soir. C'est vrai que j'avais vu l'émission La Grande Librairie.
Oui.
Et le témoignage...
De Camille Kouchner, oui.
De Camille Kouchner a été pour moi un déclencheur, comme l'avait été antérieurement le consentement.
Oui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Pourquoi vous vous êtes dit c'est le moment de raconter, c'est le moment de parler ?
Parce qu'il faut mettre des mots précis. Il faut dire ce qui a été fait. Parce qu'à 10 ans, je ne l'ai pas dit à ma mère tel que ça s'est passé.
Oui.
Et si je l'avais dit tel que ça s'est passé, ça se serait arrêté. Alors que comme mon beau-père m'avait dit « Tu ne dis rien à ta mère parce qu'elle va être triste. » Et elle va être triste, et je le savais qu'elle était triste, puisque ma petite sœur était décédée peu de temps avant, à l'âge de 14 mois. Donc ça a été un bouleversement terrible. Et il a joué là-dessus. Et à l'époque, j'ai pas osé. J'ai rien dit. J'ai rien dit pendant plusieurs années.
Donc c'est votre beau-père qui vous a abusé à partir de 10 ans, c'est cela ?
C'est cela. Et je tiens à l'antenne à dire ce qu'il m'a dit, parce qu'il faut le dire. Il se mettait nu, il se baignait, il prenait un bain, il me demandait de le laver. Je ne voulais pas spécialement, il me dit « si, si, tu peux, tu as le droit de faire ça ». Et le plus terrible... Et le consentement, là, c'est quelque chose de très important. C'est qu'il a voulu me pénétrer. Mais j'étais trop petite, me disait-il. Donc il l'a mise dans ma bouche. Et j'ai été comme un pantin. Je ne me suis pas débattue. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Et pourquoi ? Parce que j'étais sidérée. Et j'ai tout enfoui. Il n'a fait qu'une fois cet acte. Mais après... Il y a eu des comportements répétés jusqu'à l'âge de ma puberté, jusqu'à l'âge de 12 ans.
Oui.
Et il venait pratiquement toutes les nuits au pied de mon lit pour me, alors ce qu'on dit, caresser. Voilà, c'est ça qu'il a fait pendant 2 ans.
Et vous ne l'avez, donc, vous ne l'avez jamais avoué à votre mère ?
Je l'ai avoué à ma mère, mais bien
tard.
Des années. Et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, il s'appelait Jacques, il oui. m'embête. Qu'est-ce qu'il te fait ? Il m'embête, mais j'osais pas dire. Et pourquoi j'osais pas le dire ? Parce que j'avais honte. Et j'avais honte même adulte. Je ne l'ai dit qu'à des psys. Parce que je peux vous dire que ça, c'est, je sais pas si on y viendra, mais ça fait des sacrés dégâts.
Et votre maman, elle a compris quand vous lui avez dit ça ?
Je pense que non. Elle est malheureusement décédée à l'âge de 45 ans dans un accident de voiture. Donc je n'ai jamais pu lui dire avec les mots que je vous dis ce soir et que j'ai mis sur Twitter, parce que si je lui avais dit plus tôt, ça aurait été totalement différent. Mais là, elle n'a pas cherché à me questionner, ouais. Elle n'a pas cherché à savoir.
Est-ce que vous en avez parlé
elle
déjà
elle voulait peut-être pas voir.
Est-ce que vous en avez parlé déjà à vos compagnons, mari, à vos amis, aux gens qui vous entourent et qui vous aiment ?
Oui, oui, j'en ai parlé, mais pas avec ces mots aussi crus. Mais ces mots aussi crus, je n'ai pu les dire à mes proches que... Beaucoup plus tardivement, après un travail sur moi, après des psychothérapies, parce que, en fait, en moi est restée la petite fille de 10 ans, avec ouais. cette impossibilité de parler, de nommer les choses par honte. Et en fait, grâce au consentement, grâce à l'émission de La Grande Librairie, et grâce aux messages multiples qu'il y a partout, la honte doit changer de camp, et je n'ai pas à avoir honte de ce que j'ai subi. C'est lui qui doit avoir honte de ce qu'il m'a fait.
Vous avez raison, Sandrine. Vous restez avec nous, évidemment. Patricia Chalon, peut-être une réaction sur ce témoignage, évidemment très fort, et sur cette difficulté aussi à en parler, à se faire entendre, à mettre des mots sur ce qu'on a subi.
Alors, déjà, on parlait tout à l'heure du phénomène d'emprise. Là, il est tout à fait bien éclairé. Si tu dis quoi que ce soit, ta maman va être très triste et elle venait de perdre un bébé. Donc, bien évidemment, cette petite fille a gardé le secret. Elle parlait du consentement. Dans notre pays, il n'y a pas d'âge, de seuil où on se dit « tiens, cet enfant n'est pas consentant a priori ». On demande depuis des années à ce qu'un seuil d'âge soit instauré pour dire qu'un enfant de moins, nous on demande 15 ans, 15 ans, c'est vraiment le minimum pour qu'un enfant soit considéré comme non consentant. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné son consentement à ce qui lui arrive là dans la baignoire. Il n'a pas donné son consentement pour être violé par son père tous les soirs.
Bien sûr. Et on parlera de cette évolution du consentement. Patrick Jean, réaction aussi à ce témoignage, évidemment, de Sandrine, qui nous interpelle et nous bouleverse ici dans le studio d'Europe Soir. Et peut-être une question aussi sur les milieux sociaux qui sont touchés par l'inceste. Parce que c'est vrai que on dit beaucoup de choses là-dessus. La vérité, c'est que tous les milieux sociaux sont concernés.
Alors c'est un phénomène parfaitement transversal. Donc tous les milieux, toutes les classes sociales sont touchées exactement de la même manière. Politiquement, on a beaucoup dit qu'il y avait eu des mouvements à gauche, à l'extrême gauche dans les années 70, etc. En réalité, ça traverse tout le champ politique de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est vraiment un phénomène qui s'inscrit dans la structure culturelle de toutes les sociétés. C'est un droit archaïque des hommes à posséder les corps des femmes et des enfants. Traditionnellement, les hommes possèdent les corps des femmes et des enfants. Au 19e siècle encore, Napoléon Bonaparte écrit « Les femmes et les enfants appartiennent aux hommes comme les arbres et les fruits appartiennent aux jardiniers. » Et c'est cette propriété-là du corps des femmes et des enfants. Rappelez-vous que le viol conjugal n'existe que depuis 1992 en France.
La qualification du crime...
Avant ça, c'est pas un viol. Au regard de la loi, c'est pas un viol. C'est un homme qui fait usage du corps de sa femme qui lui appartient. Il en est propriétaire. Eh bien, les agressions sexuelles d'enfants, que ce soit dans le cadre familial, c'est majoritaire ou pas, c'est l'actualisation de ce droit. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Et c'est pour ça que c'est un phénomène aussi massif, parce qu'il s'inscrit dans la culture. Et puis évidemment, sur le plan psychologique, chaque fois, chaque cas est différent. Mais structurellement, c'est notre culture qu'il faut revoir.
Sandrine, vous parliez de la difficulté, et on comprend aisément, de la reconstruction. Vous en êtes où, vous, sur la manière dont vous avez fait cette thérapie, accompagnée, si j'en crois votre histoire, par un psychothérapeute?
Alors là, ce que je peux dire ce soir, c'est que si je peux témoigner comme ça, c'est que je suis tirée d'affaire. Donc, heureusement, on peut s'en sortir. Mais à la naissance de mon deuxième enfant, en fait, j'ai fait ce que les spécialistes connaissent, c'est une psychose perpuérale. C'est-à-dire, c'est des hallucinations très fortes. Je peux vous en décrire une qui sera très parlante a posteriori. Je voyais mon beau-père traverser les murs avec un couteau pour poignarder mon nouveau-né. Donc je peux vous dire que c'est quand même assez fort. Et quand vous dites ça à votre mari et que ça se répète, vous vous retrouvez interné d'office en psychiatrie. Ça pendant 6 semaines quand même, avec un isolement pendant 10 jours, en sachant pas si je vais revenir sur Terre, pardonnez-moi l'expression.
Parce qu'on vous prenait pour une folle, c'est ça ?
C'est pas qu'on me prenait pour une folle, j'étais folle. Une psychose perpurale, c'est une psychose, donc c'est un moment de folie, mais très très puissant, comme si on avait fumé du LSD et qu'on ait un bad trip monumental. Et donc, on se retrouve en psychiatrie parce qu'on est folle. Après, on revient sur Terre parce que c'est une psychose déclenchée par une montée d'hormones au moment de... et une baisse d'hormones entre la grossesse et l'accouchement. Et là, on peut être soigné et on revient. Il y en a à peu près 2000 par an, des psychoses. Toutes sont palliées, je pense, à ce genre de phénomène, mais ça peut être un phénomène déclencheur.
Et comment vous allez aujourd'hui, Sandrine ?
Très bien, mais quand même après plus de 20 ans de psychothérapie et d'analyse, c'est-à-dire suivi par un psychiatre, parce que quand on est dans cet état-là et qu'on est soigné 6 semaines en hôpital... Je suis revenue chez moi, ça n'allait pas, et j'ai enchaîné derrière une dépression avec une hospitalisation de 3 semaines. pour dépression. Alors une dépression, les gens connaissent un peu plus, sont plus familiers de oui. en quoi ça consiste. Hein. Mais c'est pas un petit vague à l'âme. Vous voyez, quand vous êtes enfermé pendant 3 semaines en psychiatrie pour dépression, c'est pas un vague à l'âme. Mmh. Donc, s'en est suivi pour revoir mon enfant, un accompagnement par un pédopsychiatre, par un psychiatre, et ça pendant des années. Et ensuite, quand ça allait mieux, une analyse.
Oui.
Et c'est à l'issue de l'analyse que tout ça est ressorti. Parce que moi, à cette époque-là, je ne savais pas d'où ça venait. Hein. Vous voyez, bon, c'est la parole, c'est le travail qui est fait sur soi qui permet de s'en sortir.
On va évidemment continuer à parler de la reconstruction et de la manière de libérer cette parole. Merci infiniment Sandrine, vous restez encore quelques instants avec nous. On marque une pause, quelques secondes, et on se retrouve avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on poursuit le débat du Club des Idées. Et ce soir, vous l'avez compris, on parle du mouvement est nécessaire, hein, un mouvement inédit autour de la libération de la parole concernant les victimes d'inceste et de ce hashtag qui fait beaucoup parler en ce moment, MeToo Inceste. On a entendu le témoignage très très fort de Sandrine qui est toujours en ligne avec nous. J'ai une question à vous poser d'ailleurs, Patricia Chalon. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, présidente de l'association Enfance Majuscule. Sandrine nous dit... Je ne réalisais pas ce qui m'arrivait dans ma phase aussi de dépression et de reconstruction par la suite. Ça veut dire qu'on enfouit ce qui nous est arrivé quand on a été victime d'agressions sexuelles comme cela, si jeune, à 10, 12 ans, 7 ans, parfois en dessous. On l'oublie.
Beaucoup de victimes oublient. Oublient au sens
le traumatisme
où elles ont,
est là,
le traumatisme
a...
est là. Et c'est la seule manière de survivre, c'est-à-dire de mettre ça dans un espèce de coin, mais dans ce coin qui va ressurgir à un moment ou à un autre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les victimes d'inceste ont souvent très peur de répéter eux-mêmes, d'être aussi des prédateurs. Et je veux vraiment
d'être
leur
des
dire...
Agresseurs
des agresseurs.
Adulte.
Et j'ai vraiment envie de leur dire que ça n'est pas parce qu'on a été victime qu'on deviendra agresseur. J'ai aussi envie de leur dire qu'on peut s'en sortir, que bien sûr, il y a une cicatrice. Elle est là et elle sera là toujours. Mais une cicatrice, on peut la regarder, on peut se dire, voilà... j'ai été ceci, il m'est arrivé cela, mais elle n'est plus violente tous les jours. Elle ne fait plus autant de douleurs tous les jours. Pour ça, il faut se faire aider.
Vous êtes favorable, vous, Patrick Jean, auteur de cette enquête formidable qui s'appelle « La loi des pères » aux éditions du Rocher, à la fin de la prescription pour les délits et crimes comme l'inceste. C'est le débat qui est ressorti après l'affaire Olivier
c'est
Duhamel.
Une question...
hein. Aujourd'hui, la prescription est de 30 ans.
Oui, oui. Alors... Vous savez, j'ai envie de vous dire, c'est une question importante sur laquelle moi, j'ai pas à m'exprimer, je me sens pas très légitime. En revanche, si la justice faisait déjà son travail maintenant, 70% des plaintes sont classées.
Pourquoi ?
Parce que la justice n'a pas les moyens, vous vous rendez compte ? Actuellement, la population scolarisée, je vous disais, 6%, ça fait 720 000 victimes. Vous prenez les victimes qui ont entre 18 et 38 ans, puisque leur dossier peut encore être instruit, ça fait près d'un 1 500 000 victimes qui pourraient demain aller déposer plainte et dont les dossiers devraient être instruits. La justice française est en lambeaux, elle n'a pas les moyens d'encaisser 10% de cela. Donc que fait-elle ? Elle classe sans suite. Et ensuite, quand c'est classé sans suite...
C'est un manque de moyens ou c'est
un manque
de preuves, de témoignages ?
Et de volonté et de problèmes culturels. Parce qu'évidemment, cette culture patriarcale, cette puissance des pères, pères au sens de pouvoir politique, il traverse évidemment tout le corps social, y compris la justice. Et comment le voit-on ? C'est que la justice, très souvent, reconnaît des théories pro-pédophiles, comme le syndrome d'aliénation parentale, qui consiste à dire, on le dit depuis le 19e siècle, les enfants mentent, il ne faut pas les écouter. D'ailleurs, quand ils mentent, c'est leur mère qui leur a fait inventer toutes sortes d'agressions sexuelles qui n'ont pas lieu pour se défaire d'un mari gênant, etc. Et la justice reconnaît ces faits avec pour conséquence de séparer les enfants des mères qui dénoncent les agressions sexuelles pour les confier au père que l'enfant désigne comme son agresseur. Vous en avez des milliers et des milliers.
Alors,
en France actuellement.
Il y a aussi, vous tendez la perche pour en parler quelques instants, il y a aussi un héritage culturel. Vous parlez beaucoup dans votre livre, vous y consacrez un chapitre aux années 70. Vous intitulez ce chapitre « Une période pro-pédophile ». Et on avait découvert tout un tas de choses au moment de l'affaire Masnave. Je dis « découvert » parce que moi qui suis né après, vous voyez, j'ai découvert cette période-là. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Vous écrivez dans votre livre, par exemple, vous rappelez la prise de parole de la psychanalyste Françoise Dolto, qui a donné crédit à la théorie expliquant que les petites filles victimes d'inceste sont toujours consentantes. Voilà, vous citez tout un tas d'exemples. On tombe de l'armoire, franchement, quand on lit cette partie-là du livre. Et ça rappelle cet extrait. qu'on avait rediffusé à l'occasion de l'affaire Mazneff. On va se l'écouter une nouvelle fois parce que c'est important. Bernard Pivot qui reçoit l'écrivain sur son plateau en 90.
S'il y a un vrai, véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand même Gabriel Matzneff. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus.
Je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas? Et donc, oui, je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils.
C'est Barjo ce qu'on entend. C'était il y a 30 ans, 1990, sur le plateau d'une grande émission littéraire, apostrophe, Bernard Pivot qui reçoit donc Gabriel Mazneff. Alors, et ça ne choque personne.
Nos sociétés vacillent en permanence, elles oscillent plus précisément, entre le déni et la légitimation. Le déni, on a ça dès que la loi commence à réprimer les violences sexuelles contre les enfants au milieu du 19e siècle, avec les accusations hétérogénitales. On met toujours des noms très scientifiques sur les théories fumeuses qui consistent à dire les enfants mentent, il ne faut pas les écouter. Le déni. Oui. Ça revient dans les années 1980 avec des théories américaines, syndrome d'aliénation parentale, syndrome de Médée, qui consiste à dire de la même manière les enfants mentent,
il ne
faut pas les écouter.
Loin. C'était devenu presque de la pop culture.
Et là,
avec
c'est le contraire.
Hamilton,
L'autre bout de l'oscillation qui est la légitimation. Oui. On passe de l'un à l'autre en permanence. Et la légitimation, c'est pas qu'en France, c'est pas que Mazneff. C'est dans tout le monde occidental, il y avait des associations de libération des pédophiles. Ils s'appelaient eux-mêmes comme ça. Oui. Ils avaient des magazines. Il y a eu 4 magazines en France jusqu'au début des années 90 avec des photos d'enfants nus avec en sous-titre Bon appétit. Ça, c'est effectivement, c'est une période. Mais qui continue, parce que les gens qui vivaient à cette époque-là, ils sont toujours là. Je veux dire, les gens que vous retrouvez sur Internet par dizaines, par centaines, par milliers qui téléchargent des vidéos pédopornographiques avec des viols de bébés, des viols d'enfants. Ben je veux dire, cette culture-là, elle est toujours là. Elle ne peut plus s'exprimer de la même manière dans les médias, sauf quand Finkielkraut nous dit « Ah, mais quand même, après tout, est-ce que la victime n'était pas quand même consentante ?» C'est l'héritage de ça.
Oui.
On est toujours entre déni et légitimation,
c'est
et actuellement, on est dans les deux.
C'est scandaleux, il se fait virer et il dit comment on me censure. Voilà. Ce qui est d'autant plus scandaleux. Patricia Chalon.
Ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est qu'on trouve ça dans tous les milieux politiques. On va avoir juste des légitimations. C'est-à-dire, on va prendre quelqu'un d'extrême droite, par exemple. Il va dire, mais cet enfant m'appartient. Il est à moi. Je fais ce que je veux avec. C'est mon bien. Et puis, on va aller à l'extrême gauche et on va trouver des gens... Mais le corps des enfants, il faut qu'il puisse s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez à réprimer comme ça la sexualité infantile dont on sait qu'elle ne demande qu'à s'épanouir? Donc, et là-dessus, on a des échelles sur tous les milieux, dans toutes les catégories, et ça, on n'en est pas sorti.
Alors, je rappelle, pour terminer, la réponse pénale, car c'est important de le dire, un viol incestueux est puni de 20 ans de réclusion criminelle au maximum, mais vous le disiez les uns et les autres, dans 80% des cas, d'après l'association Face à l'inceste, les faits sont jugés comme des délits et non des crimes, donc les auteurs ne risquent, dans les faits, que 10 ans d'emprisonnement.
Et quand c'est le cas, ils sont très peu punis. La plupart d'entre eux prennent du sursis. Aujourd'hui, en France, c'est beaucoup plus risqué de voler une mobylette que de violer son propre enfant. En termes pénal,
donc
c'est très clairement...
Donc il faut renforcer la législation.
Il faut que l'inceste soit un crime en soi. Que ça ne soit pas simplement quelque chose qui vient se rajouter comme ça sur une agression sexuelle ou sur un viol. C'est un crime. Et d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait ce seuil pour les agressions sexuelles. Un enfant de moins de 15 ans n'a pas la possibilité de donner son accord ou de son consentement. Et un enfant de moins de 18 ans, en cas d'inceste, puisqu'il est mineur et là, après, il est majeur, on ne peut plus intervenir, mais il est mineur et un parent n'a pas à s'occuper du corps d'un enfant du sien ou de celui d'un beau-père ou d'un frère ou d'une sœur.
Merci infiniment d'avoir participé à cet échange et c'est un combat nécessaire. On continuera évidemment d'en parler pour la libération de la parole. Merci infiniment à Sandrine aussi qui nous a apporté son témoignage très fort et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite, Sandrine. Merci à vous.
Europe 1. Julien Bugier.
19h50, dans quelques secondes, tout autre chose, les archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va revenir sur l'histoire du génocide arménien, et plus précisément sur le jour où le Parlement français l'a reconnu ainsi. A tout de suite.